attaques dont on a fait l'objet dans la communauté juive d'Annecy, et qui sont inqualifiables, insupportables et non conformes aux valeurs du judaïsme. Lorsque les enfants à qui je fais des cours dans les écoles catholiques, protestantes, publiques ou privées ou juives à Chambéry me demandent pourquoi les juifs portent des papillotes et ne se coupent pas la barbe, je leur donne pas du tout l'explication classique, je leur donne celle de Shmuel Trigano qui dit tout simplement que ne pas porter le fer au coin de son visage, dans la mesure où le visage est le paradigme de la beauté et de l'intégralité du peuple d'Israël, tu ne porteras pas le fer au coin du peuple d'Israël, tu ne feras pas de secte, tu ne diras pas qui est un juif et qui n'est pas un bon juif, tu ne diras pas qui est bon et qui est mauvais, c'est pas toi de le faire. Chaque membre du peuple juif a droit au monde futur. C'est une prière qui est tirée des maximes des pères que nous récitons tous les jours. Nous disons tous les jours le Kol Yisrael Yesh Chelek le Olam Haba. Tout Israël a part au monde futur. Donc un rabbin ou un responsable communautaire qui se livre à des attaques contre les membres de sa propre communauté certainement n'aura pas part au monde futur. D'autant plus que le Lashon Hara, la médisance publique, est un péché absolu. Donc c'est un comportement barbare, c'est un comportement suicidaire, et je souhaite qu'Eliane et son mari continuent cette voie, comment dirais-je, admirable qui est la leur, qui est celle de ce partage d'une foi en des valeurs communes, qui est tout simplement l'expression la plus forte de l'amour, qui fait que dans un couple, on peut être différent, respecter et embellir la vie de l'autre. Donc je voulais simplement réagir à ce que j'ai entendu et qui m'a littéralement bouleversé. Je fais le même travail à Chambéry que le fait Eliane, mais ce type d'attaque, effectivement, m'écorche moins qu'elle, parce que sans doute je suis moins sensible qu'elle ne l'est. C'est pour ça que je apporte le témoignage de mon amitié, de mon soutien, de mon admiration, ainsi qu'à son mari. Voilà, je voulais commencer comme cela. Alors, on m'a demandé de parler des aspects du texte biblique qui nous est commun, et qui parle, discute sur le thème de la révolte. Il aurait été très très facile pour ma part, dans une vision un peu hagiographique, de reprendre des thématiques et de transgression et de révolte qui peuvent aller tout simplement de la faute originelle, qu'on n'appelle pas faute chez nous les juifs, du péché, de la consommation de l'arbre du bien et du mal. Bon, et il aurait été facile de parler des échecs successifs de Moïse. On présente toujours Moïse, notre maître à tous, Moshe Rabbeinu, notre maître à tous, comme quelqu'un qui a eu des succès toute sa vie. L'histoire de Moïse, il faut bien comprendre, et ce n'est pas un paradoxe, qu'elle s'est bâtie à la suite d'échecs successifs. C'est à la suite d'échecs successifs avec le peuple juif, de révoltes successives de ce peuple contre ce qu'on leur a porté, qu'il a pu bâtir le judaïsme que nous pratiquons aujourd'hui. C'est un judaïsme par élimination, c'est pas du tout un judaïsme par accumulation que nous appliquons. Donc ça aussi, ces révoltes, on aurait pu en parler. On aurait pu parler, bien évidemment, des grandes révoltes historiques du peuple juif, révolte de Hashmonaïm, et dont on sait tout à fait comment elle a commencé, et dont on sait très mal qu'elle s'est très très mal terminée, parce que le royaume des Hasmonéens, ça n'a pas été le paradigme de la pureté juive. On aurait pu parler aussi de la grande révolte de 136 après Jésus-Christ, de celle de Bar Korba, qu'imprudemment Rabbi Akiva qualifia de Messie, ce qui provoqua instantanément la mort d'un million de Juifs et la déportation d'un million d'autres. Je veux dire que ce type de révolte, moi, je veux dire sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Et une vision hagiographique, une vision de célébration un peu de ces vieux de révolte, ça ne m'intéresse pas. Pas plus non plus que je vais faire ici le rapport des révoltes qui sont là, elles, à l'honneur d'un peuple opprimé, qui sont celles de Treblinka, celles du ghetto de Varsovie, et toutes ces révoltes dont on ne parle pas et qui ont lieu dans les camps de concentration, car les Juifs ne se sont pas laissés mener à l'abattoir comme des moutons, enfin la plupart d'entre eux. Il est d'ailleurs curieux de remarquer que la plupart de ceux qui ont résisté au nazisme n'étaient pas des juifs religieux, ce qui veut bien dire que quelque part la capacité à se défendre, elle n'est pas forcément au sein des communautés moutonnières qui font systématiquement ce que leur disent des rabbins qui ne sont pas toujours tout à fait clairvoyants. Voilà ceci pour donner la tonalité de cette intervention. Ce soir, je vais essayer de faire avec vous du chidouche, faire une lecture renouvelée des textes bibliques à propos de la révolte. Et j'ai choisi, comme je l'avais dit tout de suite l'an dernier à notre ami, trois thèmes qui m'intéressent. Le premier est récent, c'est celui de la Megillat Esther, de la fête de Pourim. Le deuxième sera le combat de Jacob avec l'ange, c'est-à-dire le thème de la traversée du Yabok. Voilà. Le troisième, qui est encore plus difficile du point de vue Kiddush, mais qui à mon avis est l'exemple type d'une triple révolte, c'est celui de l'Akeda, c'est celui du sacrifice, du faux sacrifice, du non-sacrifice d'Isaac, qu'on a l'habitude de lire d'une manière, et vous allez voir que je lis tout à fait de façon différente. Nous venons de lire dimanche chez nous à Chambéry la Megillat Esther. Vous savez que les Megillot, ce sont des rouleaux, un ensemble de rouleaux qui font partie du troisième livre du Tanakh. Vous vous souvenez de la Torah écrite, la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les Neviim, c'est-à-dire les prophètes, avec les trois grands prophètes et les 12 petits prophètes, et vous avez les Ketuvim, c'est un ensemble de textes dont la Megillat Esther fait partie. Qu'est-ce qu'elle raconte cette Megillat Esther que nous lisons le jour de Pourim? Elle raconte tout simplement un épisode, sans doute mythique, mais très connu par la tragédie de Racine qui s'appelle Esther, qui est l'histoire des Juifs à Babylone. Vous vous souvenez qu'en 584 avant Jésus-Christ, les Assyriens, une centaine d'années après avoir réduit et détruit le peuple d'Israël, les 10 tribus, s'attaquent au royaume de Juda à Benjamin, autour de Jérusalem et de Hébron, détruisent le temple et emmènent en captivité le peuple juif. Donc, tout d'abord, une vérité, c'est pas le peuple juif qui est parti à Babylone. Ce sont ses élites, quelques dizaines de milliers de personnes, de prêtres, d'artisans, de savants, d'historiens, de rabbins. Le peuple, lui, est resté sur place. Les Assyriens n'en avaient que faire. Mais il s'agissait de décapiter une population en assimilant ses élites, tout simplement, comme font toutes les grandes civilisations. Donc, 584, les Juifs sont pour quelque temps à Babylone, et l'histoire, qui est tout à fait belle et qui peut représenter un exemple type de la diaspora juive dans le monde entier, raconte l'histoire d'un roi qui s'appelle Assuérus, et le texte commence très joliment par un banquet que donne Assuérus à tous ses satrapes et à tous ses princes, et dans lequel, ayant bien bu, bien sûr, il demande à la reine Vashti de se présenter. On devine qu'il lui demande de se présenter avec le minimum de vêtements, chose qu'elle refuse, bien évidemment. Du coup, il la répudie. Et par la suite, ce roi va chercher une autre épouse. Dans le même temps, Mordechai, qui est l'œil, qui est le patron un petit peu de la déportation juive à Babylone, a une nièce. Et cette nièce a un nom prédestiné, elle s'appelle Esther. Esther, ça vient de l'hébreu Nistar, ça veut dire « caché ». Donc, il va tout simplement proposer à Esther de devenir la femme d'Assuérus sans révéler qu'elle est juive. Il va simplement chercher un appui dans ce palais, devinant qu'il y a des temps durs qui s'annoncent, d'autant que le roi a maintenant un ministre qui s'appelle Aman, lequel Aman, dans son propos, a tout simplement envie de prendre le pouvoir, et comme d'habitude, comme tous les fascistes, les futurs dictateurs, les apprentis, les Kadhafi, les Hitler, va s'appuyer sur la persécution des minorités pour prendre le pouvoir, en présentant les Juifs comme un peuple exogène, comploteur, nuisible. Il va s'acharner à le faire détruire, à le faire assassiner par l'empereur. Or, la date de mort pour tous ces Juifs est fixée par un sort. Il fait venir les magiciens, et c'est ce jour-là que nous célébrons sous la fête des sorts, jour où tout peut se passer, le bien comme le mal, la vie comme la mort. Et le récit se continue en racontant que le jour où Aman présente son décret, Mardoché va voir Esther, en disant « Écoute, on va mourir, donc il faut que tu fasses quelque chose. » Esther dit « Mais le roi va me tuer si j'y vais sans audience. » Faites jeûner 3 jours et ensuite j'ai essayé d'obtenir votre grâce du roi. Entre-temps, Mardoché avait dépisté un complot, les auteurs de ce complot avaient été pendus, le récit avait été inscrit sur le livre des chroniques du roi, et un soir d'insomnie, le roi se fait lire ses chroniques et demande ce qu'on a fait pour ce brave Mardoché qui l'a sauvé, et un serviteur qui est là dit « On n'a rien fait du tout ». le lendemain matin, qui est le jour où Aman vient présenter son décret, le roi lui demande « qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que j'ai envie d'honorer ?» Et Aman pense que c'est à lui qu'on fait allusion, et il dit « il faut donner ton cheval, il faut donner ton plus beau manteau, ta couronne, et il faut qu'un homme passe devant lui dans les rues en disant « voilà ce que fait le roi, quelqu'un qu'il veut honorer. » Et le roi lui dit « écoute Aman, tu vas prendre Mardoché qui est aux portes du palais, tu vas le mettre sur mon cheval, lui donner ma couronne, et c'est toi qui vas l'emmener dans les rues. » Voilà, c'est un épisode un petit peu comique, donc c'est un très beau texte d'homme qui est très drôle, qui est très humain. Donc l'histoire bien sûr se continue, il y a quelques épisodes héroïques comiques, il y en a un qui est très Phédo, très Courteline, où effectivement Aman tombe sur un lit avec Esther, alors que le roi est présent, donc c'est assez drôle quand même comme histoire. Et on devine que c'est un texte qui reflète des événements humains. À la fin, bien évidemment, comme vous le devinez, la situation s'inverse, c'est ça pour Im. Bon sort, mauvais sort, et ce sont les enfants d'Aman et sa famille qui sont pendus aux potences qu'ils avaient préparées pour les Juifs, et c'est une très grande fête pour les Juifs. Alors, pourquoi je vous parle de ce texte ? Pour parler de la révolte. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que nulle part dans cette Megillah, le nom de Dieu n'est prononcé. Nulle part, à aucun endroit. Par contre, on voit sans arrêt des gens qui ont la pertinence, qui ont l'intelligence de la situation d'une minorité opprimée, placer des mines, des contre-feux, des espions, pour essayer à tout prix de se sauver. Et qui, en même temps, vont remotiver leur population. Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne pour une population ? C'est tout simplement ramener des gens par une stratégie de prière, de teshuva, à leur vraie identité. Leur dire au fait, peut-être qu'il y a des années que vous êtes bien, ici, dans la grande ville, à Shushan HaBira, à Suse, vous êtes très heureux, vous avez des business, vous êtes médecin, vous êtes commerçant, l'argent ça marche, hein, vous êtes content. Mais au fond, n'oubliez jamais que vous êtes juif, et que ceci étant, vous êtes parfaitement vulnérable, et que vous le serez à jamais. Donc, quelle est la révolte dans cette histoire ? Ben, c'est une révolte tout simplement humaniste. C'est de rappeler que, avant de s'adresser à Dieu, pour régler notre petit problème, il faut simplement se motiver, il faut s'investir, il faut faire teshuva, il faut retrouver son identité au-delà de l'unanimisme de façade, au-delà d'une situation qui économiquement va bien et qui nous pousse à la procrastination en disant ben « demain je m'en occuperai, après-demain je m'en occuperai ». Eh bien non, cette histoire raconte, et c'est valable, c'est un paradigme pour tous les groupes humains, qu'ils soient protestants, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient noirs, qu'ils soient musulmans dans ce pays, que c'est d'eux que vient la solution, que c'est d'eux que vient la trouvaille, que de toute façon, Dieu ne fera que, tout simplement, agréer, porter, aider cette histoire. Mais c'est la décision leur appartient, la force leur appartient, la capacité de résister au massacre leur appartient. Donc voilà ce premier exemple que je voulais vous donner. Et vous observez que tout ceci est valable pour toute l'humanité. Chaque minorité doit garder à la fois le souci de son essence, l'intelligence de son identité, la fierté de ses valeurs, mais également le pressentiment que tout peut arriver. Tout peut toujours arriver. Madame, tout à l'heure, me parlait de son père qui était pasteur en Allemagne avant la guerre. L'Allemagne était le pays d'Europe qui a fait la révolution intellectuelle du XIXe siècle. En matière de science, en matière de littérature, en matière de musique, en matière de philosophie, en matière de physique, de chimie, de médecine. C'était le pays de la culture pour l'Europe. C'était aussi le pays de l'émancipation des Juifs. Comme la constituante de 1791 en France l'a été. Mais ça n'a pas empêché l'affaire Dreyfus en France. Ça n'a pas empêché les lois de Vichy. Ça n'a pas empêché le massacre des Juifs par la Shoah. Donc, dans l'identité juive, la première chose qu'il faut savoir, c'est sa singularité. Nous sommes un peuple unique parce que nous sommes singuliers. Nous ne sommes pas singuliers parce que nous sommes meilleurs. Nous sommes simplement les témoins d'une vieille histoire qui remonte à des milliers d'années. Et c'est en tant que tel que nous sommes singuliers. Et je pense très sincèrement que si les nazis, pendant la guerre, ont massacré les juifs, c'est parce que tout simplement, ils étaient des témoins de la naissance du christianisme. À travers le massacre des Juifs, c'est la chrétienté qu'on visait. Et je pense, comme l'a très bien dit un pasteur, que après les communistes, après les Juifs, eh ben ça aurait été les protestants, ça aurait été les chrétiens et les autres. Donc la barbarie est en marche. Et elle était en marche en France entre 40 et 44, elle était en marche en Allemagne, elle est de nouveau en marche chez nous. Ce thème de Pourim, il faut l'appliquer à nos concitoyens musulmans. Ils vivent exactement la même situation que la population de Mordechai, de célèbre mémoire, et de Esther à Suse, à l'époque du roi Assuérus. Voilà. Donc vous voyez que de cette révolte-là, qui est une révolte humaine, c'est-à-dire une bonne conscience de son être, de sa foi et de ses valeurs, sans réclamer passivement l'intervention divine. Une petite anecdote. Arnold Mandel, que j'aime beaucoup, raconte une histoire qu'il a vue dans un train en 37-38 en Allemagne. Il est dans un train, il voit des barbus, des chassidim qui sont en train de prier dans un compartiment. Il leur dit, vous savez ce qui se passe? Vous allez tous mourir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Et les chassidim lui disent en rigolant, mais bien sûr, on ne vous a pas attendu. Qu'est-ce que vous faites? Ils disent, nous lisons les psaumes. Donc je veux dire que quelque part, ce sentiment de l'urgence, mais ce sentiment aussi que c'est dans notre identité qu'on va retrouver les moyens de rebondir, c'est cela que nous enseigne cette fête de Pourim. Donc premier exemple de révolte dans la lecture de nos textes consacrés, du Tanakh. J'en viens maintenant à des choses qui sont plus fines. Le ruisseau, le fleuve Yabok. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous l'avez ici à Vaishlach. Hein? Alors, je vais le lire en français. Jacob vient d'essayer de régler ses problèmes avec Ésaü. C'est pas innocent, on va en parler dans un moment. Et Jacob traverse la rivière Yabok avec ses deux femmes, avec ses deux servantes et avec ses 11 enfants. Il les prit et les fit passer le torrent et passa ce qui lui appartenait. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à la hanche et la hanche de Jacob se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aube est venue. » Il répondit, « Jacob répondit, le « il » premier c'est l'ange, hein. « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. » Il lui dit alors, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté avec Dieu et avec des hommes, et tu as triomphé. » Jacob l'interrogea en disant, « Apprends-moi, je te prie ton nom. » Il répondit, « Pourquoi t'enquérir de mon nom ?» Et il le bénit sur place. Jacob appela ce lieu Péniel, parce que j'ai vu un ange de Dieu face à face et que ma vie est restée sauve. Alors voilà une histoire absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire? Il faudrait que vous lisiez l'hébreu, parce qu'en hébreu, les termes français qu'on emploie, combattre, vaincre, toucher, se battre, c'est pas aussi évocateur que la langue hébraïque. Le terme employé pour le combat, c'est un terme qui veut dire poussière. Ce sont des hommes qui font, en s'agitant, un lever de poussière. Et le combat est décrit comme un enlacement. Pas une vraie bataille. C'est un enlacement, c'est une imprégnation. C'est quelque chose d'absolument indissoluble. Pourquoi la hanche de Jacob se luxe? Parce que tout simplement, cet enlacement avec Dieu est extrêmement difficile à rompre. Le changement de nom est aussi très intéressant. Souvenez-vous, lorsque Abraham est destiné à devenir le père des Juifs, il s'appelle pas comme ça, hein. Il s'appelle Abraham. Et on change son nom en Abraham, père du peuple. Lorsque Sarah, stérile, rit parce qu'on lui annonce qu'elle va être mère, celui qui lui annonce cela lui dit « Mais non, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Sarai, tu t'appelles Sarah. » Lorsque nous faisons, et on le fait malheureusement très souvent dans notre communauté qui vieillit, des prières pour les gens qui sont malades, nous complétons la prière par un changement de nom. C'est-à-dire que nous changeons le nom du malade. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, tout changement de nom est le signe d'un nouveau départ. Cette notion du « va pour toi », du « lech lecha », elle est également dans le sens des mots. Pour faire quelque chose d'autre, pour devenir quelqu'un d'autre, il faut changer de nom. Qu'est-ce qui se passe au fleuve Yabok? Jacob, il a deux solutions. Ou rester avec Dieu, ne pas affronter la personne qui est en face de lui, se comporter comme son grand-père, Abraham, qui était l'homme d'un amour infini, qui acceptait tout, on le verra tout à l'heure. Il peut aussi se comporter comme son père, Isaac, qui est le paradigme de l'application de la loi, mais il peut aussi définir une nouvelle voie, qui est une voie moderne, qui est tout simplement de rompre cet enlacement confortable avec Dieu pour tracer à nouveau sa propre voie. Pour ceci, il faut tout simplement s'opposer, se révolter comme un destin tracé, un destin immuable, un destin pour lui seul, et affronter cette liberté dangereuse, cette liberté difficile, se désenlacer d'avec Dieu, se révolter contre Dieu, et c'est ainsi qu'il va devenir Israël. Que veut dire le mot Israël? Vous savez que la langue hébraïque, c'est une langue consonantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle, c'est nous qui la vocalisons. Israël, ça veut dire Yachar El, celui qui, comme Noé, va marcher droit dans les sentiers de Dieu. Et Israël, celui qui a combattu Dieu. Donc, notre ami Jacob, il va être, qui n'est pas Rabbi Jacob, c'est notre ami Jacob, il va notre père Jacob, eh bien, il va avoir deux noms. Il va avoir deux objectifs, rester dans les voies de Dieu, mais également aller contre Dieu dans ce que ça a de rassurant, de confortable et d'immobile. Le choix entre le mouvement et la mobilité, le choix entre le particularisme et l'universel. Et l'image métaphorique est absolument superbe, parce que c'est celle du peuple juif. Jacob, désormais, va boiter. Il va boiter entre ces deux situations et ces deux identités, le particulier et l'universel. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, je trouve qu'actuellement, le peuple juif, il est déchiré entre le particulier et l'universel. Et on rejoint ce qui m'a fait commencer cet exposé tout à l'heure. Cette volonté de ghettoisation, de repli, de minéralisation du peuple juif, qu'il s'agisse de la diaspora ou qu'il s'agisse d'Israël, ce repli sur des pseudo-valeurs, l'État d'Israël qui évolue vers un nouvel rachmonaïsme, un nouveau nationalisme religieux suicidaire. Et bien pareil pour les communautés juives en France, qui se replient sur elles-mêmes dans un repli qui est complètement létal, qui est suicidaire, seul avec eux-mêmes. Donc Jacob nous dit la voix. Oui, vous devez accepter de continuer la route, mais vous devez aussi accepter de boiter, car vous portez avec vous les valeurs du particulier et les valeurs de l'universel. Et la révolte de Jacob, son combat avec l'ange. Vous avez entendu le mot? Le lieu s'appelle Peniel. On dit de Moïse qu'il a vu, le seul à avoir vu, le bas du manteau de Dieu et par l'arrière. Jacob, lui, a vu Dieu en face. Et un grand poète, Francis Ponge, qui parlait du soleil en face. Je veux dire que quelque part, Jacob a vu le soleil en face. Donc, c'est pour ceci qu'on s'aperçoit que s'il y a une vocation dans la tradition juive, c'est certainement cette révolte qui est proposée par rapport à des mythes fondateurs. On a cette image métaphorique de Jacob qui est là, et qui va choisir, la vie, en fin de compte. Il va choisir la liberté avec ce qu'elle comporte de risque. Mais il ne va pas abandonner son identité antérieure. Il a deux noms. Alors, je vais pousser un peu mon ridouche un peu plus loin, de façon un peu plus dérangeante. Vous savez que quand on mange chez les juifs la partie postérieure du mouton ou de l'agneau, ben pour nous, juifs ashkenazes, on jette la moitié postérieure. Et pour les séphardimes, souvent, on dissèque. On dissèque le nerf sciatique, parce que les bouchers du Maroc et d'Algérie savaient très bien faire ça, et on mange quand même la viande, bien évidemment. On enlève le nerf sciatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on est passé de la hanche luxée au nerf sciatique. Est-ce que c'est vraiment le nerf sciatique? Eh bien, pour moi qui suis médecin, je dis que c'est pas le nerf sciatique. Lorsque l'ange a frappé Jacob, il l'a frappé là où ça faisait mal. Il l'a frappé au testicule, hein, tout simplement. Je crois qu'on est exactement dans l'image, le paradigme que si une tradition se périme, elle se périme dans la descendance. C'est-à-dire que la suite du combat de Jacob, elle n'est pas avec Jacob, elle n'est même pas avec ses fils, elle est sur la descendance de ces gens-là. C'est effectivement, le danger réside dans cette transmission génétique de ces valeurs que va porter désormais Jacob. Et toutes les fois que nous oublierons que nous sommes particuliers et universelle, et que nous avons des devoirs par rapport à notre histoire, à ce que nous portons, à ce témoignage que nous portons, mais aussi des devoirs par rapport à la société qui nous entoure, par rapport aux religions issues du judaïsme, par rapport à tous les gens qui pensent qu'ils se réfèrent à un Dieu ou pas, on n'en a rien à faire. Comme je le disais une fois ici, la plupart de mes amis athées, quand je leur demande s'ils sont athées, ils disent « oui, je suis athée, Dieu merci ». Donc quelque part, Dieu n'est jamais très loin de nos amis humanistes qui se disent athées, quelque part. Mais si nous oublions, nous, de boiter, si nous nous faisons faire des talonnettes pour que ça ne se voit pas, eh bien nous ne sommes plus juifs, tout simplement. Donc voilà ce que nous raconte ce deuxième exemple sur la traversée du Yabok. Et à mon avis, c'est une histoire forte et que je lis personnellement avec un bonheur infini et que je souhaiterais faire lire à nos rabbins beaucoup plus souvent. Eux qui sont tellement persuadés que nous sommes dans le particulier et que nous n'en sortirons jamais. Pour moi qui suis médecin, ça me fait penser à ces spores tétaniques qui sont enkystées et qui traversent le temps, qu'on va retrouver dans 2 millions d'années quelque part. Mais qu'est-ce qu'elles auront apporté à l'humanité, sinon une maladie neurologique extrêmement sévère. Voilà ce que j'y avais. Je ne suis pas très tendre, mais j'avais dit tout à l'heure à Eliane que je n'allais pas apporter des vérités toutes faites, et je n'allais pas du tout faire de l'histoire des saints et de... Je suis juif, donc je ne suis pas un béni, c'est ça. Bien. Ensuite, j'en arrive à quelque chose qui va vous sembler encore beaucoup plus torturé. Vous connaissez tous, et vous admirez tous, la thématique du sacrifice d'Isaac. La ligature d'Isaac, exactement, la ligature. C'est très important, la ligature. Parce que vous vous souvenez que quand on lie un animal pour le sacrifice, on lui lie les deux bras en arrière et on attache ça aux deux pieds qui sont reliés en arrière. C'est-à-dire qu'alors on les met dans un état, avant le sacrifice, d'une dépendance absolue, d'une impossibilité absolue à se mouvoir. C'est-à-dire qu'on crée une minorité définitive, une faiblesse absolument définitive. C'est pour ça qu'on dit la ligature d'Isaac, ou qu'on dit aussi maintenant, on le lit sous la plume de Bernheim, le non-sacrifice d'Isaac, plutôt, hein, parce qu'il n'a pas été sacrifié. Alors vous vous souvenez de cette histoire? Un jour, Dieu demande à Abraham qui lui dit cette chose admirable, « Me voici, Ineni, me voici. » Et quand Dieu s'adresse à Abraham, il adore Abraham. Il lui dit chaque fois, non pas Abraham, il lui dit Abraham, Abraham, il lui dit deux fois. Hein, je veux dire, c'est un signe d'amour absolu. Hein, c'est vraiment son... Comme Yitzhak sera le chéri de son père, Abraham c'est le chéri de Dieu quelque part. Et il dit à cet homme qu'il aime et qu'il apprécie, mais vous allez voir qui parfois l'énerve un peu, hein, parce qu'effectivement nous les Juifs, le bon Dieu on l'énerve beaucoup, hein, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Et ce jour-là, Abraham ne fait pas du tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je parlais d'une triple révolte. Dieu dit à Abraham, prends ton fils chéri, hein, je ne sais pas quel terme il emploie, Yedidi, je crois qu'il emploie comme terme, c'est ton chéri, ton unique, et tu vas l'emmener. Et tu vas l'emmener au lieu que je t'indiquerai, et puis là-bas, je te dirai ce qu'il faut faire, hein, là-bas tu me le présenteras en offrande, en substance. Donc Abraham, il n'est pas très content. Parce qu'il a un seul fils, il a eu beaucoup de peine à l'avoir. Quand on lui a annoncé qu'il allait avoir un fils, sa femme s'est beaucoup moquée de lui. Parce qu'en substance, si on lit bien le texte, elle lui a dit bah, « Écoute, avec un vieux bonhomme comme ça, c'est pas demain que je vais avoir un gamin, hein, parce que probablement il m'approche plus beaucoup. » Donc, vous savez, il faut chercher les petites choses d'humour, un peu même triviales dans le texte biblique. Donc, il a eu beaucoup de peine à l'avoir, hein, donc il y tient d'autant plus. Et il va l'emmener. Mais Abraham commence à tricher un peu. Triche un peu Abraham. Au fond, il n'a pas du tout envie de sacrifier son fils. Hein. Et il met 3 jours pour arriver à un lieu qui est à moins d'une demi-journée. Il n'emmène pas un jeune homme, Nahar. Il emmène 3 jeunes hommes. Il y a 2 serviteurs. Et le même nom désigne Isaac et désigne les 2 autres serviteurs, Nahar. Au bout du 3e jour, Dieu se manifeste par une nuée, hein, sur le mont Moria. Il dit, mais écoute, c'est là, hein, je t'attends, hein, il y a longtemps que je t'attends là. Hein. Voilà, et il se décide quand même à y aller. Et pendant ce trajet, il va laisser l'âne et les 2 garçons sur les 3, on ne précise pas lesquels, hein, au début. Et il va emmener son fils, chargé avec le bois, et chargé avec un objet qui ne s'appelle pas un couteau, qui ne s'appelle pas un sakin, qui s'appelle un maharelet, ça vient du mot hébraïque les echol, c'est-à-dire manger. Qu'est-ce que c'est que cet outil qui sert à manger, si vous voulez? Et il va l'emmener, et puis son fils lui demande pendant le trajet, vous vous en souvenez tout à fait, mais dis donc papa, où est... j'ai le bois, hein, j'ai le feu, on a l'instrument, et mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham lui dit, écoute, Dieu y pourvoira. Et quand il arrive sur le lieu, vous vous souvenez de l'épisode, il ligature son fils, à contre-cœur, cherche l'agneau, il n'y a pas d'agneau, et il va, pour le sacrifier, c'est-à-dire qu'il brandit cet instrument qui s'appelle l'instrument pour manger, Maharelet, et l'ange du Dieu l'arrête en disant, écoute Abraham, t'es complètement nul mon pauvre homme, t'as rien compris du tout, hein, c'est pas ça qu'on te demande. Et qu'est-ce qu'on voit dans les broussailles? On voit un bélier dont les cornes sont dans la broussaille, et voilà, ça va être l'objet du sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire? Alors, pour la plupart d'entre nous, on nous a appris, Liane, on t'a appris, je pense que toi tu dois l'enseigner aussi, que ça représente l'interdiction définitive du sacrifice humain. Ok. Alors c'est vrai, et je reviens à l'étymologie mahrelet de la serpe de sacrifice, c'est vrai que le fait qu'une génération en dévore une autre, c'était Moloch, c'était quand même des civilisations de l'époque où on sacrifiait des enfants pour faire plaisir à Dieu. Donc là, c'est limpide, c'est évident. À mon sens, ça ne suffit pas. Parce que des générations qui envoyaient leurs fils se faire massacrer, on en a eu jusqu'à 14-18 en particulier. C'est tout à fait typique, hein. Le sacrifice humain d'une génération sur celle d'après, on l'a vu largement, on l'a vu encore récemment, on le voit encore partout. Donc ça c'est pas une idée qui me satisfait. L'idée qui me satisfait, c'est celle de cette triple révolte. On a manifestement celle d'Abraham. Abraham, c'est un très brave homme, c'est un homme aimant, c'est un homme vieillissant. Pourquoi je dis vieillissant? Parce que vous savez quel âge il a, Isaac, le fameux Nahar, le jeune homme sous lequel son père le cache au milieu d'autres jeunes hommes. Il a 36 ans. Il a 36 ans. C'est-à-dire que c'est déjà un homme fait, hein, qui est là. Donc ça, c'est la première remarque que je ferai. Donc Abraham, il a beau le planquer avec les autres gamins, c'est pas un gamin, bien évidemment, hein. Donc il y a cette révolte un petit peu d'Abraham, il y va contre-cœur, il y va en traînant les pieds, il espère que jusqu'au dernier moment, Dieu va l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, et il va être contraint de le faire quand on l'arrête, mais manifestement, il n'a rien compris. Donc il y a une révolte tacite d'Abraham contre Dieu qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Abraham, il est trop vieux. Il y a une révolte dont le texte parle mal, qui est celle d'Isaac. Je vous ai dit que dans la tradition juive, dans le Midrash, Abraham c'est la bonté, c'est l'amour, Isaac c'est la loi, Jacob c'est les deux, c'est l'homme moderne, c'est l'homme qui va être la loi et l'éthique en même temps. Isaac c'est un garçon très droit. Qu'est-ce que c'est que la révolte d'Isaac dans toute cette histoire? C'est son questionnement. Est-ce que papa va être à la hauteur? Est-ce que papa va être nul de chez nul, ou est-ce que papa va faire ce que Dieu lui demande? Et tout ce récit est tendu par ce problème de la rencontre et du conflit latent entre le père et son fils. Manifestement, Isaac réalise que son père, il n'est plus là, il n'est plus à hauteur, il doit passer la main. Ils montent ensemble, et qu'est-ce qui se passe là-haut? Et c'est le troisième thème, c'est celle de l'étonnement, de la révolte de Dieu contre ce que fait Abraham, qu'il ne lui a jamais demandé. Que demande Dieu à Abraham? C'est de lui présenter son fils en offrande, il ne lui demande pas de le sacrifier. Il demande à Abraham une ola, le terme hébraïque pour sacrifice, c'est ola, c'est une montée. Il demande simplement que Abraham monte avec Isaac vers lui, et que lorsqu'il redescende, ce soit Isaac qui prenne le relais. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire, sinon celui d'un passage de témoin? Il est temps qu'Isaac prenne la place de son père. Or, il y a une trace qui est évidente dans ce texte, c'est le bélier. C'est tellement important que la corne du bélier, ça va devenir pour nous le chauffard, c'est-à-dire la corne qui va célébrer les événements les plus importants, celle qui annoncera la venue du Messie, celle que nous sonnons pour Rosh Hashanah et pour Kippour, la corne sacrée, qui est tout à fait ce son de la mystique et de l'espérance juive. Qu'est-ce que c'est qu'un bélier, sinon le grand-père d'un agneau? Ce jour-là, ce que demande Dieu, c'est qu'on sacrifie le grand-père. C'est qu'Abraham s'efface pour laisser passer son fils. Et c'est à ce prix-là, au prix de cette triple révolte, lorsqu'Abraham et Isaac descendent de la colline. Abraham est pacifié, mais Abraham passe la main. Et Isaac prend le pouvoir. Et le fils et le père descendent de la montagne, la main dans la main, dit le Midrash. Le questionnement, la révolte d'Isaac est apaisée. L'inquiétude de Dieu face à l'incompréhension d'Abraham est apaisée. L'inquiétude d'Abraham par rapport aux demandes inconsidérées de Dieu et qui ne comprend pas sont également apaisées. Donc voilà comment je lis cette crise de la ligature, cette crise de l'Akeda, simplement comme le fait que le don de prophétie, le don de la parole n'est pas donné de façon définitive. Il n'est pas donné, sauf dans ce cas-là, de façon héréditaire. C'est quelque chose qui est temporaire, la grâce de Dieu qui nous est faite. Le don que nous avons de prophétie peut s'adresser dans le plus grand arbitraire à n'importe qui. Cette notion du caractère relativement bref, de la pertinence d'un patriarche, est tout à fait évidente. Et ça nous rappelle à des lois humaines qui sont très fortes. C'est que nul n'est prophète en son pays, c'est vrai, mais nul n'est prophète toute sa vie. Hein. Je crois qu'on nous dit ce jour-là que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ne sont des dieux. Ce sont des hommes, ils ont leur trajectoire et leur vocation d'homme, et une vocation particulière. Mais que lorsque cette mission s'achève, eh bien, il faut savoir passer la main. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la façon dont Abraham va passer la main à Isaac à la demande de Dieu, qui lui demande de lui présenter en offrande, de lui offrir son fils, pour qu'il prenne la suite de son père. Voilà un peu mes tentatives de renouvellement de lecture sur trois thèmes particuliers. Pour ceci, bien sûr, j'attends vos questions.
Merci Albert, c'est toujours un cadeau. Aujourd'hui particulièrement pour mon épouse et pour moi, mais je crois que tout le monde a profité. On va avoir beaucoup de questions. Albert Métade, parce qu'en plus de ses qualités médicales, il connaît sa Bible par cœur, parce que moi j'ai une traduction, j'ai la Torah hébraïque avec la traduction quand même du consistoire, c'est pas rien. Or, il met « celui que tu aimes » en parlant du Fils. Mais si on regarde l'hébreu, c'est effectivement « Yedidi ». Donc, même le consistoire ne peut pas te prendre en défaut de lecture de la Bible.
Yedidi, ça veut dire mon chéri. Hein.
Mon chéri. Mon chéri, puisque c'est, ça s'adresse. Voilà. Donc, voilà un temps de questions. Je vais essayer de voir si avec le fil comme ça fonctionne. Comme ça, je le ferai passer par-dessus les gens qui sont à la table. Qui se dévoue pour la première question ?
Ouf. Alors là.
Ah, je les ai accablés là, je les ai terrorisés. Allez.
Attends, Gérard.
Qu'est-ce que nous vivons dans la veine subversive? Et Sarah dans tout ça? Puisqu'on a un midrash dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, qui dit que, apprenant qu'Abraham s'apprête à sacrifier son fils, elle meurt. Et de fait, juste après, la paracha suivante commence par « Sarah mourut ». Alors, finalement, il y a bien quelqu'un qui a été sacrifié dans l'histoire. Il y a une victime collatérale, c'est quand même Sarah.
C'est bien que tu m'en parles. Moi, je suis toujours très amusé et très charmé un peu par la position des femmes dans la tradition juive, qui est justement jamais celle du droit chemin rabbinique, qui est toujours celui de la subversion. Et
tout à l'heure, je rappelais comment Sarah s'était moquée d'Abraham quand on avait annoncé qu'elle allait être mère. Bon, je pense que Sarah meurt, elle est d'abord saturée de jours, comme dit le texte biblique. Elle est au bout de ses jours, elle est littéralement épuisée. Et puis, moi, je pense que si quelque chose l'accable dans cette histoire, ça c'est ma vision personnelle, c'est pas du tout le fait qu'Abraham fasse comme d'habitude n'importe quoi, c'est que tout simplement ce soit une histoire d'homme et qu'elle n'a pas sa place dans le jeu. Donc elle sort du jeu parce qu'elle n'y a pas sa place. Et là on a un thème qui à mon avis est très très fort. C'est pourquoi ces personnages de femmes qui sont tellement essentiels au judaïsme, tellement fondateurs, tellement ontologiques, je parlais tout à l'heure du thème de Ruth, comment à partir d'une femme non juive, il y a un ressourcement complet du judaïsme et un redépart du judaïsme éthique, de l'éthique universelle. Comment on dit aux juifs, comment la belle-fille de Elimelech va rappeler sa belle famille à ses devoirs. Donc Sarah, c'est pareil, c'est un de ces personnages de femmes dans la Bible qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas forcément, comment dirais-je, le discours théologique, mais on n'écoute pas leur humanité. Les femmes dans la Bible sont toujours le rappel de notre chair, de notre humanité, de notre filiation, de notre vie d'homme de tous les jours. Donc Sarah meurt, d'abord parce qu'elle est chargée de jours, ensuite parce qu'elle est complètement oubliée dans l'histoire qui se passe, transmission du pouvoir entre Abraham et Isaac. On est dans un problème de pouvoir. Il n'y a pas que le judaïsme, et encore maintenant, toutes les religions ont vécu, lors de leur naissance, islam, chrétienté, un nombre de femmes supérieur aux hommes, qui, lorsque ces religions se sont organisées, ont vu les femmes marginalisées, minorées, évacuée, brimée, réduite à une essence tout à fait inférieure. Donc je crois que ta remarque me passionne pour ça. C'est qu'on est exactement dans un moment où on, du texte biblique, on, déjà, on oublie les femmes.
Ceci dit, Abraham a bien écouté et s'est pas révolté contre sa femme quand Sarah lui a demandé de sacrifier, enfin de d'éloigner son Ismaël.
Moi je suis comme toi, moi je ne supporte pas cette histoire de Ishmaël et de Hagar. D'ailleurs, j'aurais dû quand même rappeler, comme je le fais quand je parle avec des musulmans, que dans la tradition musulmane tardive, c'est Ishmaël qui prend la place d'Isaac dans le sacrifice. Alors j'ai fait un travail sur le Coran. Sachez quand même que c'est pas dans les sourates les premières, c'est dans les sourates tardives que l'image de substitution d'Ishmaël à Yitzhak apparaît. C'est très très tardif, c'est sur les dernières sourates. Donc le Coran n'est pas plus cohérent, n'est pas plus homogène, n'est pas plus révélé que n'est la Bible. Ça, encore une subversion supplémentaire. Voilà. Mais c'est très bien que tu en parles, parce que ça c'est absolument insupportable. Alors qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle que ces gens sont des hommes et qui font des erreurs. Là, il le fait sous la pression de sa femme. Et là, on est dans un problème de pouvoir. C'est la religion des tentes, c'est la religion des bédouins. C'est qu'en fin de compte, si une femme veut diriger dans la tribu de son mari, ben, il faut qu'elle vire les femmes qui étaient là avant elle. On est dans une sociologie de la Bible qui est une sociologie bédouine. Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas aussi que quand je parle des conflits internes au judaïsme, il n'y a pas seulement le conflit entre le particulier et l'universel. Au sein même du judaïsme, il y a un conflit permanent, régulier et nécessaire entre le judaïsme des tentes, celui des familles, celui de Moïse, et le judaïsme de la synagogue, celui d'Aaron et de ses descendants et des Kohanim. Il y a un balancement conflictuel, dialectique permanent entre les deux. Eh bien moi je crois que cette histoire de la déportation, parce qu'il faut employer ce terme, de Hagar au désert, est tout simplement un problème de pouvoir au sein des tentes. On a un résultat de la sociologie bédouine. Et qui témoigne bien que Abraham, en fin de compte, c'était un très brave homme, comme j'espère l'être, ou comme tu l'es, ou comme chacun l'est.
Alors, Rachel. Une autre question?
Moi, c'est pas une question, mais j'ai hésité à venir parce qu'on est en cure, que c'était pas très très facile, mais je savais que ce serait tellement, pour reprendre des mots que tu as employés, je vais reprendre tes mots, un bonheur infini. C'était pas appliqué à toi, même moi je l'applique à toi, comme chacun de nous, je pense, peut l'appliquer à toi. Parce que c'est toujours un bonheur infini de t'entendre. Un bonheur infini de voir cette érudition, parler sans aucune note, à faire une conférence parfaitement structurée, parfaitement cohérente. Parce qu'on peut parler sans note, mais on retient pas grand-chose. Là, c'est parfaitement structuré. C'est absolument merveilleux. La singularité, ben oui, comme chaque fois, la singularité, on a le bonheur. Moi, je n'ai plus la possibilité de participer maintenant, mais Albert anime cette fois par an à l'amitié judéo-chrétienne à Chalaisos chez nos amis Pierre et Claudie, et c'est toujours un bonheur infini de l'écouter. Donc, singularité dans ce ridouche, ce renouvellement lumineux de l'interprétation avec des choses extrêmement fortes, parce que tu as parlé de trois textes majeurs, trois textes fondateurs, trois textes sont tout à fait d'actualité, et ce que j'admire toujours chez toi, c'est ce courage, cette honnêteté intellectuelle exceptionnelle, ce courage, cette rigueur éthique, parce que parler de la communauté, enfin de certains membres de la communauté juive ici ou ailleurs, comme chez nous, on peut parler aussi, chacun doit balayer devant sa porte, et tu as un très bon balai. Parler aussi comme tu l'as fait, interpeller comme tu l'as fait Israël, je me réjouis. Tant j'aime Israël et tant je regrette certaines dérives. Donc je te remercie une fois de plus pour ce degré d'humanité, d'humanitude exceptionnelle que tu as manifesté. Et je suis tellement heureux pour elle.
Je suis très flatté des éloges que tu me prodigues, mais je suis surtout enchanté d'avoir été compris, si tu veux, d'avoir été écouté. Hein, parce que, comme vous l'avez deviné, aucune de mes interventions ne se fait par le biais d'un unanimisme bénisseur de façade. Je crois qu'il faut aller aux problèmes qui sont difficiles, les relire avec les lunettes de notre époque et ne cacher aucune espèce de problème. Pourquoi je prolonge un peu la thématique qui vraiment est obsédante pour moi, de ce rappel, comment dirais-je, légendaire des Maccabées et de Matatiaou. Lorsque nous fêtons la fête de Hanouka, lorsque nous allumons les bougies qui célèbrent la dédicace du temple, nous oublions totalement que ces 3 ans de guerre qui ont permis la libération du temple, ça a été une guerre civile, ça n'a jamais été ou très peu une guerre contre les bons juifs religieux et les païens grecs. C'était tout simplement une guerre de civilisation entre les juifs qui étaient dans la référence au passé et entre les juifs qui étaient dans l'hellénisme, dans la modernité, dans la pensée de leur temps, la langue de leur temps, les habits de leur temps, les routes, les usines, les productions de leur temps. Donc ça a été un conflit qu'on peut reproduire à l'époque actuelle. Donc une guerre civile qui a donné lieu à des massacres absolument inouïs pour aboutir à la dédicace du temple de Jérusalem, à l'évacuation des Syro-Séleucides vers leur pays, vers Damas, mais en laissant entre les mains d'une dynastie familiale nationaliste et religieuse l'avenir des 200 ans qui suivent du peuple juif, qui vont tourner à la catastrophe absolue, parce que le peuple juif libéré, soi-disant, entre guillemets, des Séleucides, va continuer à vivre selon la mode hellénistique. Et les Asmonéens sont les premiers à le faire, et les premiers à abandonner toute référence aux vraies valeurs du judaïsme, aux valeurs d'austérité, aux valeurs de frugalité, aux valeurs de partage, aux valeurs de tolérance, tout simplement pour se livrer à ce à quoi se livrent des gens qui ont pris le pouvoir dans des conditions. On peut comparer, sans vouloir abuser, l'Algérie post-FLN à ce qu'étaient les Asmonéens
cette époque-là. C'est-à-dire les résistants ont pris le pouvoir et le lâcheront en aucun prix. Et tout aussi va se terminer, mais de façon abominable. Parce que lorsque Jean Hyrcan II assiège Aristobule dans Jérusalem, eh bien, Aristobule va appeler les Romains. Et quand les Romains viennent quelque part, ils s'en vont plus. Je veux dire que les principaux responsables de la catastrophe nationale du peuple juif, ce sont les descendants des Asmonéens. Et le fameux Hérode n'était plus un Asmonéen, Hérode Antipas, c'était un Iduméen. Il venait d'Idumée, ce brave homme. Il venait d'Arabie Saoudite. Il était juif depuis relativement peu de temps. Donc, je veux dire que toute cette magnifique légende de la guerre de la libération de Hanouka, de la dédicace du temple, elle repose quand même à la fois sur une lecture qui est pauvre. Il n'y avait pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Il y avait au sein de peuple juif des tendances extrêmement fortes. Actuellement, je fais un gros travail parce que je viens de donner une conférence sur le Kohelet, sur l'Ecclésiaste, dont je pense qu'à part Néer, personne ne l'a très bien lu. Le seul qui a compris quelque chose à l'Ecclésiaste, c'est Lévinas, qui disait c'est le premier texte existentialiste de l'histoire. Hein. Et donc j'ai fait un travail, j'ai donné cette conférence à Lyon, passé une quinzaine de jours, je vais la redonner à Chambéry dans quelques temps. Et ça montre bien comment les Juifs, en 250 avant Jésus-Christ, ils pensaient grec. Ils pensaient grec. Et c'est pas... Moi, je le rappelle à ces braves gens de la synagogue actuellement, qui me disent « Non, non, c'est Salomon qui a tout écrit. » Mais c'est une gigantesque blague. C'est une escroquerie intellectuelle. Faire croire à des gens que Salomon a écrit ce texte. C'est bien plus intéressant de penser qu'au sein même du peuple juif, des tendances intellectuelles confrontées, avancer, argumenter, débattre, se parler. Et on découvre des choses absolument inouïes. J'ai découvert par exemple quelque chose que j'ai lu nulle part. C'est pourquoi l'Ecclésiaste est dans le canon juif et pourquoi l'Ecclésiastique écrit 50 ans après sur les mêmes thèmes, prolongation, n'est pas dans le canon juif. Eh bien, on le découvre, mais c'est tellement limpide. Où est-ce qu'on va retrouver l'Ecclésiastique en dehors de Saint Jérôme, hein? Où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver à la Guénisa du Caire, on va le retrouver à Qumran, et on va le retrouver à Massada. C'est-à-dire que les Sadducéens de l'époque, et les Esséniens, qui étaient une secte des Sadducéens, étaient partisans d'une théorie philosophique néo-pythagoricienne et que les gens de l'Ecclésiaste, eux, ils étaient tout simplement épicuriens, stoïciens. Hein ? Je veux dire qu'on s'aperçoit que la détermination du canon juif, parce que nous sommes tous actuellement des pharisiens, s'est faite sur des canons qui étaient néo-platoniciens en Égypte, mais en Palestine, ils étaient basés sur les stoïciens, sur les cyniques et sur Épicure. Alors que maintenant, quand on veut désigner un mauvais juif, on dit apikoiros, on lui traite d'épicurien. Eh bien, c'est comme ça que s'est fait le canon juif en 200. Sur des critères qui étaient des critères de nosologie grecque. Ce qui veut dire que l'hellénisme, il a bien imprégné les intellectuels de l'époque, rabbins ou pas rabbins. Donc, quand on vous raconte des fariboles à la synagogue ou à l'église ou au temple, réfléchissez par vous-même. Parce que la vraie histoire des sociétés humaines, elle est bien plus intéressante que ce que nous racontent les rabbins et les choses comme cela. Elle est faite de chair. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est la culture. Savoir que ces gens parlaient le grec et qu'ils connaissaient les philosophes grecs, ça, c'est très intéressant. Et quand on me dit que quelque chose est arrivé d'en haut et qu'on a le prendre tout entier, alors là, franchement, je mets mes chaussures de sport et je me sauve en courant.
Oui. Ah, si, il m'écoute. Oui. Je voudrais retrouver le problème de la quête de la foi qui peut se faire par des chemins différents qui te seront respectables l'un et l'autre. Moi, je vous remercie pour votre érudition, mais si vous pouvez m'expliquer quel est le but du peuple juif, ou a-t-il un objectif?
C'est beaucoup plus facile. Enfin, quand on parle de foi, on parle d'une expérience individuelle. Quand on parle de peuple, on parle de cette expérience reproduite à l'état collectif. Donc ce sont deux corpus qui sont totalement différents. Le peuple juif, est-ce qu'il a un but? Je dirais non. Je dirais non. Parce que comme le disait un grand savant juif, le Messie est fait pour ne pas venir. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le chemin. Tout à l'heure, j'évoquais le Lech Lecha, va pour toi. C'est le chemin, c'est pas d'où on vient, c'est pas où on va. C'est la façon que nous avons de cheminer, seul ou avec les autres. C'est la quête, c'est le mouvement qui est intéressant. Si vous voulez, le peuple juif, il a ceci d'exceptionnel, c'est qu'il porte témoignage de valeurs collectives émise sur des sociétés païennes, mais dans le premier corps de doctrine construit et qui représente un code non seulement religieux, c'est le moins intéressant, mais un code éthique, c'est-à-dire un code du rapport à l'autre, un code social, et je vais dire même plus que ça, c'est le premier exposé de nourriture macrobiotique, c'est le premier exposé du rapport de l'homme à la nature. Donc je veux dire qu'on a un ensemble éthique valable aujourd'hui qui a été édicté, construit progressivement, voici déjà plusieurs millénaires. Donc ça, c'est ce qui fonde, c'est l'histoire, c'est le témoignage de ceci qui porte un peu l'histoire de Belugé. Parce que tout simplement, cette pensée-là, elle n'est pas périmée. Elle est d'autant moins que la société occidentale en particulier est totalement adossée à cela. C'est une hypocrisie fondamentale que de ne pas vouloir reconnaître à la Constitution européenne et au droit de l'homme, une des origines et des racines qui sont des racines bibliques. Ce n'est que là qu'on l'a trouvé. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous sommes là pour porter témoignage de valeurs qui ne sont pas défuntes, et nous sommes là pour cheminer, si possible avec les autres, avec ce corps de doctrine, et à le vivre. La vie est faite pour être vécue, et ce passage est fait pour être rentabilisé. Comme le dit le Talmud, l'homme sera jugé à ses traces. Et comme le dit également le Talmud, grande est l'action et grande est la pensée qui se termine par une action. Je veux dire que cet activisme qui est là, cette idée même très moderne, très existentialiste, que nous ne sommes pas prédestinés, que tout est entre nos mains, que cette vie est à vivre, c'est ce qu'on pourrait appeler le fondement de la tradition juive. Donc ça, c'est qu'est-ce qui fonde un peu cette histoire pérenne qui aurait dû s'arrêter il y a fort longtemps avec tous les massacres. Maintenant, le problème de la foi est un problème qui est non seulement un problème individuel, mais qui est aussi un problème, j'allais dire, qui est dans une relativité discontinue au temps. C'est vous comme moi, on ne croit pas tout le temps. Hein, nous croyons par intermittence, bien évidemment. Hein, dans nos phases de sécurité, nous sommes très bien et vous n'avez pas besoin de croire. Imaginez, hein, quand vous cherchez une place de parking dans Annecy, souvent vous faites une petite prière pour en avoir une. Mais dès que vous avez une place, vous oubliez Dieu. Hein. Alors, je veux dire, cette notion de foi, elle est tout à fait intermittente. Donc, ça relève de l'expérience individuelle. Je complète, hein, je ne vais pas faire que des plaisanteries. La notion de foi, c'est l'idée forte, l'idée, j'allais dire, qui nous porte, qu'il y a autre chose que ce que nous vivons au quotidien. Et que par un dépassement, une élévation de nous-mêmes, vous voyez qu'on rejoint à cette ola, à cette montée dont je parlais tout à l'heure avec le sacrifice d'Isaac. Sacrifice, c'est une montée. Nous montons. Pèlerinage, pour nous les juifs, c'est la halot baregel, c'est monter à pied. Hein? Le dimanche dernier, les Français ont voté avec leurs pieds. Eh bien, nous, les Juifs, quand nous pèlerinons, lors des trois fêtes de pèlerinage, nous prions avec nos pieds. Hein. Nous montons avec nos pieds. Nous montons à pied. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, ce sentiment que nous pouvons nous adresser à quelque chose qui dépasse notre pauvre rationalité et que ce qui nous fait vivre, c'est important. Quant à la réponse, on l'aura sans doute jamais. Comme le disait très bien Nachman de Breslav, quand on lui posait une question qu'il ne pouvait pas résoudre, il disait « Teikou ». Teikou, c'était l'anagramme d'une phrase qui disait « Quand je serai auprès de Dieu, il m'expliquera ».